Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons commencer notre cycle d'ateliers-conférences. Et tout d'abord, je vous présente Madame Edith Viarmet, directrice d'un centre de formation d'art-thérapie à Paris et formatrice et superviseur en art-thérapie. Madame, à vous.
Ah, alors maintenant. Donc je vois, ça marche. Bon, ça commence bien. Bon, d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'art-thérapie ? Bon, c'est vrai que quand c'est créé, au début, les artistes nous disaient, mais enfin quoi, l'art guérit pas, qu'est-ce que c'est que ça ? L'art n'a pas ce genre d'objectif. Bon. D'un autre côté, le thérapeute nous disait... Pourquoi vous appelez thérapie ? Pourquoi pas art et inconscient, art et psyché ? Pourquoi pas thérapie ? Pourquoi pas pourquoi ce mot thérapie ? Bon. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on savait que ça existait déjà en Angleterre depuis un certain temps, un peu aux États-Unis, enfin beaucoup en vrai, mais c'est surtout en Angleterre que c'est très développé, parce que ça a été même... Les consultations d'art-thérapie étaient même remboursées par la Sécurité sociale. En fait, c'est le seul endroit où ça l'est en réalité. Bon, ça c'est pour la petite histoire, et c'est pas tellement dans une introduction que je devrais dire ça. Aux États-Unis, c'est comme c'est un système d'assurance, c'est au bout de trois, ils ont deux ou trois séances de reconnues. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Bref. Donc on s'est appelé art-thérapie. Parce que c'était issu d'une interrogation qu'un groupe d'artistes et de psy avait sur la pratique de la psy. Comment faire, dans le fond, pour aborder différemment les personnes en difficulté ? On connaissait les difficultés de la prise en charge des enfants, des adolescents, des adultes, des gens qui ne parlent pas, des gens qui ont trop parlé, des gens qui sont rodés à l'entretien, qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer d'un peu différent ? Et on a développé à partir de 1980 ce qui est devenu petit à petit l'art-thérapie créative. Ce que nous appelons art-thérapie créative. C'est-à-dire une art-thérapie qui s'appuie comme fondement sur la démarche de création. Démarche de création se référant à une démarche artistique. Alors, art et thérapie. Thérapie, ce serait apprendre au sens grec de thérapeia, l'art de vivre ensemble. En Grèce, les serviteurs et les maîtres vivaient ensemble. Et les serviteurs développaient l'art du service et l'art du soin. Et c'est cet art du soin qui était d'abord mené par les serviteurs pour créer, dans le fond, cet ensemble de convivialité. C'est ça qui s'appelait thérapeia. L'art de vivre ensemble. L'art d'aller mieux et peut-être aussi l'art d'être davantage. Alors, l'art, est-ce que c'est de l'art ce qui se passe en art-thérapie ? Parfois, il y a des fulgurances de beauté. Parfois, c'est des choses infimes qui se créent. Des choses peut-être de l'ordre de la subtilité, mais parfois c'est du rien, parfois c'est du pas beau, parfois c'est quoi ? Alors, l'art, ça serait à voir comme une tension vers. L'art, c'est ce vers quoi on tendrait. Parce que dans l'art, il y a la question de la mise en forme. Qu'est-ce que fait un artiste ? Il met en forme la matière. Au départ, une boule de terre, ou des morceaux de terre éparpillés. Quelqu'un qui ne va pas, qui est là, qui, autant T0, disons, va commencer à travailler la terre. Autant T1, il y a quelque chose qui apparaît. C'est peut-être une boule, c'est peut-être un personnage. Autant T2, disons, autre chose va apparaître. Peut-être ce qui s'est fait au début a été complètement effacé. Une nouvelle forme apparaît. Petit à petit, comme ça, les choses vont évoluer. Donc l'art, c'est avant tout une mise en forme. C'est un travail de la matière. Au début, il n'y a rien. Il y a une sorte de proposition. Et ce faisant, quelque chose va apparaître. Donc quelqu'un qui est en difficulté. Attendez, je vais peut-être, voilà, je vais peut-être prendre ça comme ça. Quelqu'un qui est en difficulté au départ, qui ne se sent pas, disons franchement, sujet lui-même, qui est peut-être dans un état de non-sujet. Il est dans un état de non-sujet, il ne sait pas où il en est. Et dans le fond, il va venir dans une consultation, où il va venir dans un endroit où il peut être entendu, où il peut déposer sa plainte. Il peut dire sa souffrance. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Quelqu'un qui est emmené. Il ne peut pas parce qu'il est petit. Il est emmené par ses parents. Ou il ne peut pas parce qu'il n'a pas envie. Et c'est quelqu'un d'autre qui peut-être va lui suggérer qu'il y a peut-être des choses à faire pour lui. Donc, cette personne va arriver dans un endroit où il va dire ce qui ne va pas. Dans une psychothérapie habituelle, il va rester dans ce discours en jeu. Je ne vais pas bien. Mes parents, mon père, ma mère, ma sœur, mon patron, etc., ou mon enfance. Il reste dans un discours verbal et en jeu, ici, maintenant, même si ce maintenant se réfère au passé. Ce que l'art-thérapie propose, c'est un décalage par rapport à le je, ici, maintenant. Ce qui va être proposé à la personne, c'est, dans le fond, de passer du pôle de la diction de ce qui ne va pas, le fait de dire ce qui ne va pas, à un pôle qu'on pourrait dont on pourrait penser qu'on peut l'appeler le pôle de la fiction. C'est-à-dire de passer sur une autre scène que celle de la réalité de ce qui ne va pas, de sa vie. Cette autre scène où il serait dans le « il », là-bas, et dans un autre temps. Et sur cette autre scène, ce qui est proposé, c'est un dispositif où il pourra se mettre à créer. À créer, donc, dans le fond, à être dans d'autres formes de langage que celles qu'il a l'habitude de prendre. Parce qu'on a la... On est tout le temps, on a l'habitude d'être dans sa plainte. On sait ce qui ne va pas. On veut le dire. On veut évoluer. On veut aller mieux. Ça, oui. Donc, on est, d'une certaine façon, au moins au début, dans du connu. Ce que l'art-thérapie propose, c'est d'être, dans le fond, dans un autre lieu. Le lieu qui est celui de l'atelier, où là, il lui sera proposé des dispositifs où il pourra se mettre en création. Ce qu'on peut dire, c'est que l'art-thérapie, avant tout, est un accompagnement en création. Et ce qui va être accompagné, c'est les difficultés de la création plus que de la personne elle-même. Ce qui va être aidé, c'est les difficultés dans la création elle-même. Et cet accompagnement dans la création va réagir sur la personne. Qui aura une autre façon de dire. Cette autre façon de dire, revenant au premier pôle, va rejaillir sur le pôle à nouveau de la création. Une sorte de va-et-vient, si vous voulez, entre le pôle de la diction et les pôles de la fiction. Pourquoi fiction ? C'est là où on va peut-être rencontrer et travailler un personnage. On va être en face d'une toile blanche. On va se mettre à travailler le masque, les jeux dramatiques, le travail du clown, la calligraphie, la poésie. C'est-à-dire à essayer de trouver les façons de se dire autrement, de décliner d'une autre façon ses identités que par un discours verbal de parole. On réfléchit beaucoup en art-thérapie sur le statut de la parole. Mais c'est vrai que l'art-thérapie se fonde d'abord sur la production. C'est la question de la production qui est princeps, parce que c'est ça qui va se travailler. Au départ, il y a un sujet en état de malheur. Ça peut être quelqu'un qui ne parle pas, ça peut être quelqu'un qui est complètement inhibé, ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant qui fait pipi au lit alors qu'il a 7-8 ans, ça peut être un grand psychotique. Ça peut être une femme adulte qui souhaite aller mieux, se sentir mieux. Donc le champ de l'art-thérapie est très vaste. Ça peut être aussi d'accompagner des personnes en fin de vie. Ça peut être essayer de rétablir des canaux de communication avec des gens qui ne parlent pas. Donc, c'est vrai, quand la parole commence à être défaillante, on a envie effectivement de trouver d'autres façons d'approcher les gens. L'art thérapie en est une, certainement. J'ai vu des séances d'art thérapie où il y avait une femme certainement très diminuée intellectuellement et spasmodique, enfin qui corporellement était complètement tordue. Le dramathérapeute disait à toutes ces personnes qui étaient extrêmement perturbées au niveau de leur corps et de leur esprit, vous rentrez sur scène que quand il y a la lumière. Alors, certaines essayaient de rentrer. Non, vous rentrez quand il y a la lumière. Donc, délimitation du cadre, délimitation de l'espace. Et cette personne-là, qui vraiment était très arriérée, à un moment donné, étant sur scène et étant encadrée par une danseuse et une éducatrice, à un moment donné, il se passait quelque chose pour elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a fait une sorte de geste et elle s'est tournée vers la danseuse. Et ce geste-là, c'était du presque rien. Mais ça lui conférait une présence. C'est-à-dire que dans le fond, dans l'art-thérapie, parfois, il s'agit du presque rien. La production, au départ, ça peut être du rien, ça peut être de la merde. Enfin, comme dit Jean-Pierre Klein, de la merde faisant de l'engrais. De ça, on va pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est infime, c'est ça qui va être accompagné sur le plan, sur le pôle de la fiction, qui est aussi le pôle qui va être le pôle de la symbolisation. On n'est pas trop dans le langage, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas. Mais ce qui va se passer, c'est que par la création, par exemple, on propose dans un atelier d'art-thérapie par la voix, le chant, de pousser son cri. On pousse son cri. Ou plutôt, d'abord, de respirer. Et dans cette respiration, arrive peut-être un cri. Donc, quelque chose de la personne va s'exprimer. Ça peut être quelque chose qui peut être de l'ordre peut-être du sanglot, mais enfin, aussi, bien sûr, quelque chose qui va sortir, quel qu'il soit. C'est ça qui va être accompagné. On ne va pas forcément le pousser. On ne va pas aller forcément très loin. Mais ça, ça va être accompagné. Et c'est ça qui va se travailler. C'est-à-dire qu'on va être de l'expression de ce qui s'est imprimé dans le corps. Une fois que c'est sorti, si on en reste là, pour nous, ça serait comme de la catharsis. Mais l'art thérapie, selon nous, dépasse le stade de la catharsis parce qu'à partir de ce qui s'est dit, quelque chose va se travailler. On n'en reste pas là. Comment on va travailler ce cri? Comment on va en faire un son qu'on peut entendre, où on peut s'entendre? Et comment de ce son va naître un chant? Et comment faire jaillir ce chant? Donc là, il va y avoir un accompagnement. Comment quelqu'un qui peut-être n'a jamais chanté ou qui est peut-être chanteur d'opéra va pouvoir trouver sa propre voix? Et donc, c'est tout le travail de l'art thérapeute de trouver les propositions de travail. Ça peut être trouver une posture, ça peut être trouver de se mettre au fond d'une pièce et de s'adresser à un groupe. Ça peut être de l'amener à chuchoter quelque chose. Il y a quelque chose à trouver à chaque fois, pour chaque personne, au niveau de proposition de travail. Et à chaque fois, à chaque séance, il y a une sorte de remise en jeu de ce travail, avec des propositions un peu différentes, à chaque fois, différentes pour chaque personne. En art plastique, on se trouve devant une toile blanche. Il peut y avoir une certaine inquiétude. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et puis, petit à petit, ou une grande peur aussi. Parce que certaines personnes psychotiques vont peut-être mettre un point sur la toile avec leur pinceau et ça peut être extraordinaire. Mais bien sûr, on n'en reste pas là. La question de la temporalité est absolument essentielle. C'est-à-dire comment accueillir ce point? Bon, accueillir ce point, c'est tout. Être là. L'art thérapeute est celui qui est là, qui est à côté de la personne en création. À côté, derrière, qui va situer spatialement son corps par rapport à la personne en difficulté et accueillir ce qui va surgir. Ça peut être aussi de la violence. Ça peut être la lacération de la toile. Comment accueillir ça? Ça peut être je crée et je détruis. Comment accueillir la destruction de l'œuvre? Ah non, ne détruis pas ça. Bon, peut-être qu'il y a des fois où effectivement il faut le dire, mais parfois. La question de la destruction, c'est quelque chose qui se travaille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la production, elle est porteuse. Parce qu'en art-thérapie, on n'a pas affaire vraiment à la personne en direct. On a affaire à la personne en indirect. Puisque ce qui se travaille d'abord, c'est sa production. C'est ça qui va être le support de la relation. C'est de ça dont on parle. On ne parle pas de la personne. On ne parle pas si elle va bien aujourd'hui. Ou... on peut lui demander au départ quand elle arrive comment ça va, mais je veux dire, c'est pas du tout ça dont il est question. On ne va pas l'amener à parler d'elle-même. On va, dans le fond, lui donner les conditions pour que quelque chose d'elle surgisse dans les formes. Et mettant en forme une matière, quelle qu'elle soit, c'est commencer un petit peu à organiser son chaos personnel. Dans le fond, l'art-thérapie a à voir avec l'organisation du chaos. Puisque la mise en forme, on ne cherche pas... Bon, en art-thérapie, il ne sera pas question de faire du beau. Il sera question de créer les formes les plus justes pour soi. Et que si la dramathérapeute propose de travailler en battu ou en position de tolérance ou en position de neutralité. À chaque fois, c'est une proposition de travail. Et donc de travailler le corps, c'est-à-dire que d'abord il va y avoir quelque chose de corporel. De cette proposition corporelle va à un moment donné surgir une respiration qui ne sera pas la même à chaque fois. Et cette respiration va être porteuse de sonorités et de mots qui vont aller, pour une personne qui ne sait pas où elle en est de son aspect de battu, elle va travailler quelque chose d'elle-même, elle va aller dans ce qui n'est pas connu d'elle. Mais dans une autre forme langagière que la parole. Donc on est bien dans quelque chose qui ressemble, qui est un processus de symbolisation. Elle va elle-même, d'une certaine façon, se symboliser dans un processus qui va évoluer, où elle va pouvoir décliner ses identités multiples. Sans savoir, d'une certaine façon, qu'elle le fait. Parce que dans des ateliers d'art-thérapie, les gens savent là qu'ils sont pour aller mieux. Donc, ils vont peut-être mettre sur la toile leurs difficultés. Ils vont essayer de faire figurer ce qui ne va pas. C'est ainsi qu'on trouve parfois des fœtus avec un cordon ombilical, un fœtus qui crie, etc. Bon. À ce moment-là, elle a voulu signifier quelque chose de l'ordre d'une souffrance. Est-ce que ça lui aura appris quelque chose d'elle-même ? Ce que fait l'art-thérapeute, c'est qu'elle va l'aider à travailler la forme, à faire évoluer la transparence du cordon ombilical, par exemple. On va être dans la matière plastique. On va essayer de faire bouger cette production-là, qui est en fait une production parfois stéréotypée. Parce que quelqu'un a toujours envie de figurer des choses qu'il connaît. Alors partons de là, naturellement. Mais comment faire bouger pour aller du connu à l'inconnu ? Pour que la forme soit porteuse d'inconnu. Alors, c'est vrai qu'en art-thérapie, on est servi par la question de ce qu'on appelle la distance, la bonne distance. Si on est trop près de son malheur, on reste dans son malheur, on va dire sa plainte autrement. Où va pouvoir se passer la transformation ? On va rester, on va figurer ce qu'on connaît, on va figurer ce qui ne va pas. comment faire bouger plastiquement quelque chose. Donc c'est la question de l'art thérapeute constamment. C'est-à-dire qu'en art thérapie, on va accorder plus d'importance aux questions de comment ça s'énonce plutôt qu'à l'énoncer. On porte plus d'importance à la question du contenant que du contenu. En art thérapie, on ne cherche pas trop à analyser ce qui se passe. On ne fait pas d'analyse. On ne parle pas sur les productions. C'est-à-dire, enfin, si on peut parler sur les productions, mais en tous les cas, on n'interprète pas. Ça, c'est strictement interdit d'interpréter les productions artistiques, et surtout en art plastique. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un point de vue sur les productions que les personnes font. Parce qu'on a toujours des idées qui nous traversent dans la tête. Alors, il y a des idées qui sont là aussi un petit peu communes. Un patient qui va faire des clochers, des tours, on va associer ça à des problèmes phalliques, sexuels. Ou si on utilise la couleur rouge, c'est son agressivité. Si la personne prend toujours des teintes sombres ou noires, elle est déprimée, etc. Ça, jamais. C'est même là qu'on met notre éthique. C'est un des points très très particuliers, vraiment, enfin très très pour nous fondamentaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas à tenir un discours sur la production de l'autre. D'ailleurs, il y a des malades qui le disent. Nous, on en a marre de peindre parce que les médecins, ils parlent toujours sur ce qu'on fait. Et alors, on ne peut pas s'empêcher souvent d'être sollicité par la création de l'autre et de lui en faire part. On croit saisir la psyché de l'autre à travers ses productions. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Je veux dire qu'un malade ou un patient peut très bien faire un certain type de production un jour et carrément horrifique un jour et passer aux petites fleurs le lendemain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer ? Ce qu'il y a, c'est que d'abord, il faut voir comment les choses vont évoluer, comment la forme va se constituer. D'autant que parfois, dans les productions, il y a des choses horrifiques qui apparaissent. Des gens qui sont coupés en petits morceaux, des choses qui éclatent, des corps qui sont disloqués, etc. Mais tant mieux si ça arrive. Mais surtout, ne pas s'inquiéter. Ça, c'est sur une feuille de papier. Si la personne peut mettre ça sur une forme de papier, c'est qu'elle elle est déjà un petit peu sujet de sa production. Donc, si elle est sujet de sa production, c'est qu'elle arrive à établir une certaine distance entre elle et ses folies. Donc, ça, il faut que ce soit accompagné. Si on est dans l'inquiétude... comme parfois certains instituteurs qui, devant certains dessins d'enfants, vont tout de suite voir la psy, etc. Encore que là, c'est un peu différent parce que c'est dans un cadre scolaire et que l'enfant peut effectivement exprimer des choses. Mais dans un cadre art thérapeutique, la personne, elle sait qu'elle est là pour exprimer des choses d'elle-même profondément. Elle en profite, c'est très bien, laissons-la. Et que ça se développe, que ça se développe. Si à un moment donné... les patients peignent des choses très tranquilles, etc. Bon. Parfois, ça ne bouge pas. On est dans quelque chose qui ne bouge pas. Les productions sont tranquilles, voilà. Bon. Parfois, l'art thérapeute se désole. Comment faire pour que quelque chose advienne, pour que du mouvement se mette en route ? Parce que dans le fond, je crois que l'art thérapie, c'est d'abord avant tout une mise en mouvement. Donc, avant tout, une attention apportée à comment les choses vont se dire, vont se signifier sur la toile, ou dans le personnage, ou dans le masque, ou dans toute autre forme artistique proposée. ne pas essayer de trouver de signification. C'est peu à peu que les formes vont engendrer du sens. Et là, la temporalité, elle joue beaucoup. La façon d'accueillir et la temporalité. Ne pas être pressé. Ne pas être pressé que quelque chose arrive dans les productions. Parce que ces productions, en fait, elles rejaillissent sur la personne. Mais la personne, elle ne comprend pas ce qui se passe pour elle. Et ce n'est pas grave, et je dirais même tant mieux. Tant mieux que tout ça, ça se travaille à son insu. On parle beaucoup de travailler à bas bruit, à l'insu de la personne. Quelque chose se passe, dans le fond, un peu en secret. On est tout dans le contraire du dévoilement. Par exemple, à propos du dévoilement, il y avait un jour une stagiaire qui... quelqu'un qui avait essayé de... Justement, elle faisait tout le temps des voiles. Tout le temps des voiles. Elle recouvrait ses productions avec ses voiles. Et à un moment donné, elle dit à l'art thérapeute, mais il faudrait que j'enlève tout ça. L'art thérapeute a dit, attendez, pas tout de suite. Pourquoi? On n'est pas pressé. Alors, il faudrait retirer les voiles pour aller vers une vérité de la personne. D'abord, il n'y a pas une vérité de la personne. Et puis, il n'y a pas à trouver quelque chose. C'est la façon dont ça s'énonce qui va être thérapeutique. Il n'y a pas forcément un secret. Il y a parfois des secrets de famille. Bon, c'est pas... Mais on ne va pas chercher quelque chose qui serait déjà là, comme si il fallait soulever le boisseau pour atteindre la vérité de la personne. C'est plutôt... Comment, si vous voulez, la production agit un peu comme une métaphore de la personne. La personne, elle va se dire dans ses productions, mais elle l'oublie. Au départ, elle sait peut-être, elle est peut-être là, elle sait qu'elle vient en art-thérapie. Et, bon, allez, faut que j'y aille. Puis après, elle oublie. Elle est dans la pulsion de la création, dans la joie de créer aussi. Peut-être dans la... Peut-être aussi, pas forcément dans du positif, la création, ça peut être toujours, ça peut être lié complètement à la destruction. Parce qu'en même temps, mais ce qu'il y a, c'est que on ne va pas expliquer tout ça. C'est la création qui va parler d'elle-même. Et parfois, si à répétition, comme souvent en thérapie, on est bien souvent dans la répétition, on raconte tout le temps la même chose, on ne s'en sort pas. Et dans la vie, couramment, on répète toujours les mêmes comportements, etc. Mais en art-thérapie, si on fait tout le temps le même bonhomme, pendant plusieurs mois, quelque chose qui arrive à sauter aux yeux, on se rend compte que là, la répétition, il y a quelque chose qui est dans ce retour massif de la production vers la personne qui va peut-être introduire des mouvements à la fois chez leur thérapeute qui pense sa démarche et qui se dit qu'est-ce que je fais, mais qui en même temps n'a pas de projet pour la personne. Elle n'a pas de projet que la personne bouge trop sa production. Elle va attendre quelque chose, mais elle va essayer de peut-être de l'aider à introduire un petit peu un décalage, peut-être. Mais il n'y a pas d'objectif en art-thérapie. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif. Il y a seulement le désir du thérapeute qui va soutenir la cure de l'art-thérapie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Regarde un peu. Donc, on pourrait dire que l'art-thérapie est une psychothérapie. Elle est accompagnement de la personne dans une production langagière, selon des règles précises de cadre et de contraintes préalablement définies. jusqu'à ce que la personne réaménage sa façon d'être au monde de manière satisfaisante. Les règles précises de cadre et de contraintes. Ça, c'est intéressant. Parce qu'un artiste, il se donne des contraintes. Il n'est pas que dans l'expression. Quand on est dans l'expression, tout sort. Allez, exprime-toi. Va, exprime. Donc, il y a quelque chose qui fait de l'effet, certes. Hein, je veux dire, quand on exprime des choses, c'est pas sans impact. Mais la notion d'avoir un cadre avec des contraintes permet en sorte que les choses se retravaillent et qu'on repasse les choses. Qu'il ne s'agit pas de s'exprimer, mais de retravailler les formes. C'est ça. Pour nous, évidemment, on a la chance en art thérapie d'avoir de la matière, d'avoir quelle qu'elle soit. Ça peut être la matière corporelle, la matière du personnage. Ce n'est pas que ça peut être des matériaux de récupération. Ça peut être le travail de la terre, ça peut être le travail du volume, l'espace. Alors, c'est vrai que la question du dispositif, c'est d'abord un espace-temps. Créer les conditions pour qu'une personne puisse se sentir en confiance et que, d'une certaine façon, ce qui n'a pas été dit, entre guillemets, puisse se dire, puisse émerger. On est peut-être dans une certaine attente d'une émergence de quelque chose. Et de quelque chose qui parfois ne s'est jamais dite. On peut être parfois dans l'indicible, parfois d'avoir fait un trait, ça va peut-être rappeler quelque chose qui a pu peut-être se tracer. Je parle quasiment au sens métaphorique. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très troublés d'avoir fait un trait ou d'avoir tout à coup créé un personnage qui va leur parler. Ça, c'est déjà peut-être un peu plus conscient. Mais on crée des formes sans le faire exprès qui vont émerger et qui tout à coup peuvent faire comme une sorte de court-circuit, j'allais dire, psychique, et mettre en jeu un mouvement dans la psyché. Dans un atelier, on demande à quelqu'un de faire un balancement. Et de toute façon, et tout à coup, cette personne-là craque. On lui a simplement dit de faire un balancement. Ou il est proposé de sentir son corps. Il est proposé de bouger quand on en a envie. Et c'est pas vous sentez votre pied, vous sentez votre genou est lourd, etc. C'est-à-dire, parce que ça, c'est peut-être trop inductif. Et à un moment donné, la personne qui est assise ou qui est allongée, etc., elle va faire un mouvement naturel de bouger parce qu'elle va avoir un peu mal aux fesses, à l'épaule ou n'importe. Et ce mouvement-là va être saisi en quelque sorte, il va être perçu et saisi. Et de ce mouvement, on va peut-être l'accompagner vers quelque chose qui va se travailler en chorégraphie. C'est-à-dire comment, par exemple, d'une sensation, la transformer en chorégraphie. Alors là, il y a un chemin narcissique, on peut dire, un travail corporel, un travail de réminiscence aussi, de mémoire corporelle. Beaucoup de choses vont être mises en jeu, peu de choses vont être explicitées pour la personne. Des propositions vont accompagner régulièrement la progression,
pour arriver à quelque chose qui est une forme juste, où la personne se reconnaît dans cette forme juste-là. Et ce processus-là, évidemment, fait répercussion sur la personne. On n'est pas trop dans la prise de conscience. La prise de conscience, de toute façon, elle vient après que le travail soit fait. Elle vient après. On dit qu'il faut prendre conscience, etc. On prend conscience du travail. Peut-être qu'on peut prendre conscience du travail, mais c'est franchement pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé avant. On n'est pas dans une démarche cognitive en art-thérapie. On ne cherche pas trop à savoir. On ne cherche pas à connaître la psyché des gens. On ne cherche pas forcément à ce qu'ils la connaissent non plus. On n'est pas dans cette démarche cognitive-là. Pourquoi ? Parce que souvent, de savoir, ça n'arrange pas les choses. Souvent, on sait beaucoup de choses de sa psyché. On a été en thérapie pendant très longtemps. On sait quand même que des choses... on sait un peu ce qui s'est passé. On finit par connaître, par se connaître. Et pourtant, ça ne change pas. On n'est pas mieux. Alors on reste en thérapie. C'est pas si évident que ça. Peut-être que ça peut venir ponctuer. Mais nous, en art-thérapie, je dirais qu'on n'est pas tellement dans les prises de conscience, on est ou d'un savoir sur soi. Ce qu'on aime, c'est les surprises de conscience. C'est les irruptions qui arrivent. Et j'ai fait ça. Oh là là. Et tout à coup, du sens apparaît. Parce que finalement, du sens apparaît dans les productions. Petit à petit, du sens apparaît. On n'est pas dans la recherche des significations, du balisage des signes, d'une symbolique préalable. Différence entre symbolique et symbolisation. Symbolisation, c'est quelque chose de l'ordre d'un langage, d'une production de langage qui va se décliner à la fois pour la personne et aussi être communicante à l'autre, vecteur de communication. Et l'œuvre elle-même peut être vectrice de communication. Par son horreur, par sa beauté fulgurante, par la façon dont on va la cacher, la garder, la détruire. L'œuvre permet d'aborder le fait qu'il y ait œuvre, qu'il y ait création, permet de ne pas aborder directement la personne. Donc peut-être de ne pas solliciter trop ses résistances et ses défenses. Ne pas trop en dire, ne pas trop féliciter quand c'est beau, ne pas forcément encourager. Ne pas être dans une sorte de toujours valoriser la production, etc. On est dans un travail et l'autre il sait bien ce qu'il fait. On n'a pas à l'accompagnement, ça s'accompagne pas de ce type d'attitude. Et c'est pour ça que la référence à l'art nous aide. Parce que et surtout l'art contemporain. Parce que l'art contemporain est avant tout quelque chose qui s'énonce. Ce n'est pas tellement l'énoncé. L'énoncé, le produit artistique contemporain, si on peut dire, nous laisse perplexes parfois. Ce n'est pas toujours très communicant. Il faut avoir l'artiste à portée pour qu'il nous dise tout le chemin qu'il a fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont extrêmement communicantes et qui sont issues d'un chemin qui a été travaillé. Et c'est là, je crois, où on peut reconnaître peut-être les grands artistes. Mais je crois que l'art contemporain est une mise en, est un essai de la part des artistes de mettre en forme le chaos du monde. Et c'est en ça, que il y a une analogie entre la démarche de l'art contemporain et celle de l'artiste contemporain et celle de l'art thérapeute. Bon, on me dit qu'il y a la minute de reste et peut-être que vous avez envie de poser des questions. Oui.
Vous avez dit que le travail de l'art thérapeute, c'était de faire des propositions pour accompagner la progression donc, d'un travail. Très concrètement, cela peut se traduire dans des gestes, dans des propositions verbales ?
Absolument. C'est-à-dire, ça pourrait être même... oui, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple...
Des choses très délicates, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire, par exemple... proposer de faire en peinture, puisqu'il s'agit de faire évoluer la production, enfin, travailler le dégradé, travailler la transparence, travailler le vide. Par exemple, mettons une toile, la moitié de la toile est vide. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Faire remarquer des choses, par exemple, dans la production. Faire, par exemple, des propositions de déraillement, par exemple, avec la voix. Essayer de travailler la voix jusqu'à au moment donné où c'est, par exemple, quelqu'un qui serait dans une voix agréable, un chant, etc. Comment faire ? Proposer de travailler, par exemple, cette fois, ce jour-là, sur quelque chose qui serait soit les voix harmoniques, soit le déraillement, soit des voix qu'on pourrait entendre presque résonner dans les reins. Enfin, bon...
Ce serait donner d'autres choix ?
Oui. Par exemple, quelqu'un qui avait fait un bonhomme pendant toujours le même, il disait que c'était lui tout le temps. Elle lui a demandé, c'était toujours le même pendant 6 mois, c'est un psychotique, s'il pouvait le faire plus grand. Il a dit oui, et en fait, il a fait un bonhomme plus grand. C'est exactement le même, mais plus grand. À un moment donné, elle a fait une proposition de travailler à la bande dessinée. Donc, c'était toujours les mêmes bonhommes, mais il y en avait plusieurs par cadre. Et puis, à un moment donné, elle lui a demandé, parce qu'il y avait une grenouille qui était rentrée dans l'atelier, il voulait peindre la grenouille. Parce que jusqu'à présent, personne n'avait proposé aussi... Enfin, cette personne a accepté de peindre la grenouille. Donc, de changer sa façon de faire. Comment amener les gens ? Bon, ça, c'est... Si vous voulez, c'est un peu au feeling. C'est parce que l'art thérapeute, c'est travailler... L'art thérapeute se travaille elle-même. L'art thérapeute est quelqu'un qui est dans la création, pour soi-même, évidemment. Qui sait ce qu'est la création, les arts de la scène, les arts picturaux, les arts visuels. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que j'ai... Vous voulez poser d'autres questions ? Oui ? Par exemple, aussi pour continuer simplement, il y a des patients qui mettent des kilos de peinture sur leur toile. Alors, pour une proposition, mettre un tube ou deux à disposition, ou mettre carrément une grande vasque d'eau. Enfin, je veux dire, il y a dans le dispositif lui-même des choses à faire. Vous voyez ? Oui ?
Alors, ma question, c'est surtout également du pratique. Quand vous êtes face, excusez-moi.
Dans le micro.
Quand vous êtes face à la destruction de la production systématique. Qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à ça?
Il y a beaucoup de choses. Peut-être de faire quelque chose avec les débris. Peut-être d'aller les brûler ensemble dehors. Peut-être de les entasser, d'en faire une installation. Peut-être de changer d'approche artistique. Je veux dire, vous voyez, il y a mille façons. Dire que ça fait partie du cheminement, se dire ça à l'intérieur de soi, naturellement. Voilà, enfin, une autre question ?
J'entends pas. Attendez.
J'entends Nous pas. Sommes pris par le temps, pardon. Par contre, je tiens à rappeler, si Madame Viarmet le permet, que la conférence est enregistrée, les cassettes pourront être mises à la vente.
Est-ce que c'était clair ce que j'ai dit? Oui. Les deux. De toute façon, ça concerne toujours la personne. Mais c'est ce qui différencie l'art thérapie d'un travail d'animation, par exemple. Travail d'animation, je pense qu'on n'accorde pas une importance aussi grande à la personne elle-même. Parce qu'il y a un projet qui est de réaliser une pièce de théâtre ou de faire ceci ou cela. Tandis que là, évidemment, le projet de l'art thérapie, il y en a quand même un, de l'art thérapie globale, c'est que la personne puisse évoluer. Donc. Alors là, c'est aussi le statut de la production. C'est ce qui différencie l'art thérapie, par exemple, dramathérapie du théâtre. Le théâtre, il faut quand même être prêt pour faire une représentation. Ou en art thérapie, on va travailler la question de la personne, du personnage et de l'acteur, de façon à ce que ça serve la personne elle-même, pas en fonction de la représentation. Mais il peut y avoir au décours d'un atelier. On se dit, oui, ça pourrait être thérapeutique qu'il y ait une représentation publique. Parce qu'à ce moment-là, il y a la question du regard de l'autre, de toute façon, qui est toujours en jeu, quoi qu'il advienne. Mais là, il y a encore autre chose, une autre dimension. Donc à ce moment-là, on remet ça dans un projet thérapeutique.
Madame Viarmet est à votre disposition sur son stand, non seulement pour répondre à toutes vos questions, mais aussi pour signer, dédicacer ses ouvrages. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame.